Alors, notre monde est corruptible, n'est-ce pas? C'est corruptible. Il est périssable, il s'use. Il vieillit comme un vêtement, selon ce qu'on lit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1. Notre monde est tout à fait corruptible. On peut penser facilement à des exemples de cette corruptibilité dans la vie quotidienne. Des routes qui ont besoin de réparation, par exemple, des bâtiments qui s'abîment, des objets qui s'usent. On ouvre le frigo et voilà la salade qu'on a achetée hier est flétrie, n'est-ce pas? On ouvre l'armoire et voilà la chemise qu'on a achetée l'année dernière est délavée et usée. Notre monde est corruptible. On a peut-être l'impression de lutter perpétuellement contre cette corruptibilité. Par exemple, on voit la corruptibilité dans le gouvernement. Les hommes politiques font des promesses qui ne s'accomplissent pas, ou ils mentent tout simplement, et donc il faut les remplacer tous les quelques années. On voit la corruptibilité dans le foyer. Des mariages qui commencent par des vœux solennels, par l'optimisme, par un sens de l'amour, mais qui se dégradent avec le temps et qui finissent par le divorce. On voit la corruptibilité dans notre propre corps, n'est-ce pas? Douleur articulaire, rides sur le visage, fatigue. On a l'impression qu'il n'y a rien de durable, rien de permanent. Il y a toujours des mensonges, toujours des craintes, toujours de la douleur, toujours des réparations à faire. Il y a toujours de la dégradation morale, toujours de la stupidité, toujours de l'ignorance spirituelle. Notre monde est corruptible. Mais la corruptibilité n'a pas le monopole sur la vie. Oui, c'est une réalité de la vie, mais ce n'est pas la seule réalité. Dans un monde corruptible et périssable, Dieu nous offre quelque chose de permanent. On va lire maintenant, on va étudier 1 Pierre, chapitre 1, versets 17 à 25. 1 Pierre, chapitre 1, versets 17 à 25. Et si vous invoquez comme père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Vous savez, en effet, que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a été désigné d'avance avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. Vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole est celle qui vous a été annoncé par l'Évangile. Je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Elle est juge des sentiments, des pensées du cœur. Seigneur, nous prions afin que, par ta parole, tu nous encourages, et tu nous redresses dans la foi pour notre bien et pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Dans un monde corruptible et périssable, Dieu nous offre quelque chose de permanent. Dans un monde corruptible, Dieu fournit l'incorruptibilité. Dans un monde où tout est soumis à la vanité, à la corruptibilité, à la décomposition, Dieu se révèle être une source de vie et de développement. Et voici comment il le fait. Le verset 17 de ce texte nous parle d'un Dieu qui est incorruptible dans ses jugements. Comme on l'a vu dans le texte précédent, Dieu est saint, moralement incorruptible. Dieu nous appelle à l'incorruptibilité. Et quand on comprend l'incorruptibilité de Dieu et de ses jugements, ça éclaire le sens de l'Évangile. Je m'explique. Il suffit d'une brebis galeuse pour contaminer tout le troupeau. Mais chez les êtres humains, tout le monde est galeux. Selon la Bible et aussi la logique, un Dieu, un berger saint, ne se mélange pas avec des brebis galeuses, n'est-ce pas? Un peu de poison infecte tout le pichet de vin, tout le pot de vin. Dieu ne se mélange pas avec le mal. Par contre, il juge le mal. Et on devrait être content qu'un Dieu saint juge le mal, en fait. On devrait être content qu'un Dieu saint ne puisse pas être acheté, soudoyé, corrompu par nos pots de vin. On devrait être content que personne ne puisse acheter Dieu avec son poison. Dieu est incorruptible dans ses jugements. Et ça, c'est le sens du verset 17. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si on ne peut pas acheter Dieu, Dieu peut nous acheter. Jésus est devenu la brebis galeuse à notre place. Il est devenu l'agneau immolé. C'est pourquoi ceux qui mettent leur foi en Jésus sont purifiés. Les croyants deviennent des brebis pures et blanches. Le Dieu juste les regarde et voit l'œuvre de Jésus. Le Dieu juste sanctifie ses brebis, il les transforme. Il les appelle à le suivre dans la justice. Et plus on comprend la justice de Dieu et comment il a jugé notre péché en Jésus, plus on va comprendre l'importance des attentes de Dieu par rapport à notre comportement en tant que chrétien. Et plus on va vivre avec crainte pendant le temps de notre séjour sur terre. Nous servons un Dieu incorruptible qui nous appelle à l'incorruptibilité. Et ce Dieu incorruptible nous présente un salut incorruptible aussi. Les versets 18 et 19 nous rappellent qu'un salut incorruptible ne peut s'accomplir que par un moyen incorruptible. L'or et l'argent coûtent cher, n'est-ce pas? Mais le sang de Christ coûte plus cher encore. L'or et l'argent coûtent cher, mais même des objets en or et en argent sont périssables. Ils s'usent. Ils abîment. Dieu a institué le système sacrificiel dans l'Ancien Testament afin de montrer à son peuple leur besoin d'un sauveur parfait et incorruptible. Chaque année, le peuple d'Israël sacrifiait un animal sans tache, sans défaut, afin d'enlever la tache de leur péché aux yeux de Dieu. Et chaque année, il leur était rappelé que ce sacrifice n'était qu'une préfiguration d'un meilleur sacrifice à venir. Un sacrifice une fois pour toutes. Un sacrifice incorruptible. Le système sacrificiel nous montre qu'il n'y a qu'un Dieu infini qui peut payer une dette infinie. Même le meilleur de notre troupeau, même l'agneau le plus précieux, même le meilleur de notre or, de notre argent corruptible, sont insuffisants pour payer le montant de notre salut devant un Dieu incorruptible. Je me souviens d'une série de publicités pour l'entreprise financière Mastercard il y a quelques années. Et la phrase clé de cette publicité, c'était « Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Pour tout le reste, il y a Mastercard. » La publicité montrait, par exemple, une famille à un parc d'attractions et la voix d'un narrateur qui disait quelque chose de banal dans le genre de « prix d'entrée, 50 euros. Glace pour les enfants, 8 euros. Journée en famille, inestimable. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Pour tout le reste, il y a Mastercard. Bla, bla, bla. » Mais Mastercard a raison, en fait. Les choses les plus importantes ne peuvent pas être achetées par nous. Pensez à la vie chrétienne. Bible, 10 euros. Pain pour la Sainte-Seine, 1,20 euros. cravate avec l'image de Jean Calvin, 20 euros. Être sauvé de la mort et du jugement à cause de notre condition déchue, inestimable, n'est-ce pas? Ce n'est pas par l'or, par l'argent périssable que nous avons été rachetés, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Dans un monde corruptible et périssable, Dieu nous offre quelque chose de permanent. Et ce n'est pas par hasard, en fait, que Dieu nous sauve. Il le fait exprès, il le fait efficacement. Ça marche la première fois. Dans sa lettre à l'église primitive, Pierre nous rappelle que Dieu a désigné Jésus d'avance, avant la fondation du monde. Dieu ne réagit pas à la corruptibilité du monde comme si son plan pour sa création avait été gâché. Par contre, le monde corruptible fait partie de son plan afin qu'il puisse montrer sa gloire dans son œuvre rédemptrice et incorruptible. Les versets 20 et 21 nous rappellent que le plan de Dieu est incorruptible. Ça doit nous encourager dans ce monde où on s'appuie souvent sur notre plan B, n'est-ce pas, ou sur notre plan de secours. J'étais un peu attristé récemment quand une amie à nous, qui vient de se marier, m'a expliqué l'importance pour son couple de garder des comptes séparés dans leur couple, de garder leur propre travail, de garder leurs propres affaires, juste au cas où. En fait, c'est triste de voir des couples qui commencent leur vie ensemble par des doutes, par des plans de secours. Si le plan A ne marche pas, ne vous inquiétez pas, l'alphabet a 25 autres lettres. C'est un peu ça l'idée derrière ça. Mais pour Dieu, il n'y a pas un juste au cas où, vous voyez? Dans un monde corruptible et périssable, Dieu nous offre quelque chose de permanent. Un plan mis en place avant la fondation du monde. Un plan parfait qui vous inclut. Et par son plan, Dieu nous révèle son amour incorruptible, en nous appelant, nous aussi, à l'amour. Selon les versets 22 et 23 de ce texte, notre amour vient avec l'obéissance. Et notre obéissance vient de la foi que Dieu nous donne selon son plan incorruptible. Notre foi se manifeste par notre amour. Notre foi nous permet d'avoir cet amour afin que nous nous aimions aussi les uns les autres. L'amour de Dieu se transfère à nous comme on le voit dans Jean chapitre 13, par exemple, où Jésus dit à ses disciples, « Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'était par une œuvre de l'amour incorruptible que Dieu nous a transmis la capacité d'aimer. C'était par la parole permanente et incorruptible de Dieu que nous avons appris comment nous aimer les uns les autres. Un amour qui est né d'une semence incorruptible vient d'un cœur transformé par l'Évangile. Ce n'est pas un amour imprévisible ou capricieux, mais un amour qui découle de qui nous sommes en tant que chrétiens régénérés par Christ. Notre cœur, notre esprit doivent être enseignés par un spécialiste en amour, par Dieu Himself, n'est-ce pas? Ça marche comme ça. Si vous voulez devenir, par exemple, un spécialiste cuisinier, il faut passer du temps avec un spécialiste. Comme Suzanne, par exemple, en écoutant, en observant comment elle prépare des plats. Si vous voulez apprendre comment faire des points de suture, par exemple, il faut écouter, observer un spécialiste en médecine, comme Denis ou Maïlis ou Sephora ou quelqu'un comme ça. Pour une question concernant l'informatique, il faut parler à Nicolas, n'importe lequel des deux. Pour une question théologique, Alex. Pour une question sur la logistique, Faustine. On est tous des spécialistes, plus ou moins, dans des domaines divers. Mais pour apprendre comment aimer, il suffit de suivre l'exemple de Jésus. Le spécialiste en amour a aimé ses frères et ses sœurs. Il a enseigné ses frères et sœurs. Il a écouté ses frères et sœurs. Il a corrigé avec douceur ses frères et ses sœurs. Il a prié pour eux. Il les a encouragés. Il a donné sa propre vie pour eux. Il avait de la compassion pour ses ennemis. Il nous a laissé un exemple. Dans un monde corruptible et périssable, Dieu nous offre un amour incorruptible. Et dans un monde où beaucoup de paroles ne sont pas dignes de confiance, Dieu nous offre une parole incorruptible aussi. On est déjà bombardé par des paroles corruptibles dans ce monde. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme on a vu déjà en Ecclésiaste. Les mêmes paroles corruptibles atteignent les oreilles de chaque génération. En fait, c'est fascinant d'étudier l'histoire de l'Église parce qu'on voit les mêmes hérésies et les mêmes paroles corruptibles de l'homme répétées sans cesse à chaque époque. Des témoins de Jéhovah, par exemple, des mormons, des légalistes, des judaïsants, ils ont tous déjà existé depuis le début. La divinité de Jésus est niée, par exemple, la grâce de Dieu est remplacée par des œuvres, une liste de lois est ajoutée à la foi en Christ, les paroles des paroles de l'homme sont ajoutées à la parole de Dieu. Le produit est le même, mais l'emballage change. C'est pourquoi Pierre, à la fin de ce chapitre, nous rappelle que la parole qui compte, c'est l'Évangile. C'est le même Évangile qui a été promis à Ève dans le jardin d'Éden. C'est le même Évangile prédit à Abraham. C'est le même Évangile aperçu dans la loi de Moïse. C'est le même Évangile promis à David. C'est le même Évangile reçu par les disciples, dispersé aux nations, accepté par l'Église depuis les siècles. Tout le monde a une parole à nous donner, mais la parole qui compte, c'est la parole incorruptible de Dieu. La bonne nouvelle, que si on croit en Jésus, on sera sauvé. Imaginez un homme paralytique qui essaierait de vous expliquer comment courir correctement, par exemple, ou une personne aveugle qui essaierait de vous décrire la beauté des étoiles. Imaginez un petit enfant qui ne sait pas comment compter à 10, mais qui essaie de vous apprendre des calculs compliqués. Imaginez l'absurdité de quelqu'un qui n'accepte pas la vérité de l'Évangile, mais qui essaierait de vous expliquer le plan salvateur de Dieu. La parole qui compte, c'est la parole incorruptible de Dieu. Si nous avons appris quelque chose de ce texte, c'est que des gens corruptibles ne peuvent donner que des solutions corruptibles. Un monde corruptible ne peut donner que des réponses corruptibles. Un cœur corruptible ne peut donner que des résultats corruptibles. Mais Dieu nous offre quelque chose de permanent. Il nous offre l'Évangile du salut. Le sacrifice de Jésus à la croix a été fait une fois. Il est efficace pour toujours. Vous voyez que la grâce de Dieu, la foi en Jésus, l'espérance de l'Évangile, toutes ces choses, elles marchent la première fois parce qu'elles ne dépendent pas de nous. Quand j'étais enfant, j'ai traversé une période de ma vie où j'acceptais Jésus comme sauveur 2 ou 3 fois par jour, par la prière, parce que j'avais peur que la foi d'avant n'était pas suffisante. Vous voyez? C'est drôle quand je pense à ça maintenant. Mais plus tard, j'ai commencé à comprendre que mon salut ne dépendait pas de mes formules, de mes prières, de mes sacrifices, de mes pratiques corruptibles. C'est une œuvre de Dieu, tout simplement. C'est un simple appel à la confiance et à l'obéissance. Le salut est l'initiative de Dieu. Notre réponse se manifeste dans l'obéissance à l'Évangile. Méditons donc tous les jours sur l'évangile de grâce et laissant nos actions découler de ce que Dieu fait dans notre cœur. Peut-être vous avez déjà l'impression que le monde s'effondre autour de vous. Peut-être que vous avez perdu espoir. Peut-être que vous avez l'impression qu'il n'y a rien de permanent dans votre vie. Rien sur lequel vous pouvez vous appuyer. Mais je vous encourage à reprendre courage. Dans un monde corruptible et périssable, Dieu nous offre quelque chose de permanent. Sa grâce et son amour. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous vivons dans un monde qui se flétrit autour de nous. Il se dégrade dans le péché, dans la corruption. Mais nous te remercions parce que tu ne nous as pas laissés dans cette corruption. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu nous as sauvés par la croix de Christ. Aide-nous à vivre et à agir pleinement dans l'incorruptibilité, Seigneur. Aide-nous à vivre pleinement dans l'amour. Au nom de Jésus. Amen.